Tous les lundis soirs à 18h10, vous avez rendez-vous avec l'actu sportive, le journal des sports de BPM. Au programme, résultats, invités, interviews téléphoniques et réactions en direct. Une seule fréquence, 102.1. BPM, la radio qui vous donne le rythme du sport partout dans le Mantois. Le journal des sports de BPM.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des sports. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Pinlet, président et professeur d'arts martiaux au sein de l'école du Dragon Bleu. Nous parlerons avec lui des différentes disciplines enseignées et puis nous vous livrerons les dernières actualités sportives dans la région.
BPM, le journal des sports.
Et aujourd'hui, je reçois Frédéric Pinlet, président et professeur d'arts martiaux au sein de l'école du Dragon Bleu. Frédéric Pinlet, bonjour.
Bonjour.
Alors, le Dragon Bleu, c'est donc une école d'arts martiaux. Qu'est-ce que vous enseignez ?
Eh bien, c'est une école dite d'arts martiaux chinois. Alors, les arts martiaux chinois, c'est très vaste en Chine. Ça recouvre pas mal de notions et ça recouvre surtout le spectre de toute l'existence en Chine. Les arts martiaux, ça commence à 4 ans. Et ça va jusqu'à fin de vie parce qu'ensuite, ça devient les arts dits internes, comme le Tai Chi Chuan ou le Qi Gong, qui sont des arts, je dirais, pour garder la santé. Donc voilà, c'est ce qu'on enseigne à l'école du Dragon Bleu. Ça part de l'enfance et puis ça va jusqu'à pas d'âge. On se fixe aucune limite avec les arts internes. On a donc la plus grosse section est à Verneuil-sur-Seine, avec le Kung Fu et le Tai Chi. Et puis la petite section est à Épône, où on a un joli petit groupe de personnes qui font du Tai Chi et du Qi Gong.
Alors justement, on va détailler un petit peu ces disciplines. On commence par le Kung Fu. Alors le Kung Fu, qu'est-ce que c'est ?
Alors le Kung Fu, on va le replacer un petit peu plus dans son contexte, parce que bon, le Kung Fu, il y a l'image populaire avec Bruce Lee, avec les combats magnifiques, hein, qui sont une motivation pour beaucoup de jeunes, enfin qui l'étaient en tout cas pour les générations plus anciennes. Et maintenant, en revenant maintenant à la source de ce qu'était le Kung Fu, Kung, le travail, Fu, l'être humain au travail, l'être humain qui s'améliore, donc ça c'est la philosophie de l'art martial chinois, on doit s'améliorer dans tous les domaines, et surtout, on doit améliorer la vie en société. Donc ça c'est très important, il faut rappeler que le Kung Fu est né en Chine, il est né au monastère de Shaolin, en 525 après Jésus-Christ, sous la férule d'un moine indien qui a réalisé que les moines qui étaient dans le temple en fait ne bougeaient pas suffisamment, devenaient ventripotents, ne pouvaient plus devenaient fragiles, et ça c'est un mot qu'il faudra sur lequel on reviendra à mon avis, devenaient fragiles. Il s'est dit c'est pas possible, il faut absolument redonner à ces moines un petit peu plus de santé, et il les a fait travailler sur des exercices très difficiles, très très durs. Ils ont recouvré une santé de fer. Et puis c'est devenu le Kung Fu avec aussi le moyen de défendre le temple. Donc ce Kung Fu, il a perduré au fil des siècles avec pas mal de pérégrinations et pas mal d'aventures et de mauvaises aventures parfois, parce que c'était un pouvoir dans un pouvoir, hein, cette force des moines de Shaolin était un pouvoir que les autorités chinoises regardaient avec beaucoup d'attention, parfois bien pour venir défendre des nobles causes, mais parfois aussi on les voyait aussi comme une potentielle dissidence. Donc le Kung Fu a eu une histoire extrêmement difficile par moment. On va pas revenir sur les 55 jours de Pékin et la révolte des boxers, mais le Kung Fu c'est tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est devenu ensuite ? C'est devenu, en des temps plus sereins, plus calmes, un formidable moyen d'éducation pour les jeunes. On rentre en Kung Fu en Chine, on fait du Kung Fu dans les écoles. On fait du Kung Fu en école primaire, on fait du Kung Fu en université, on fait du Kung Fu dans toutes les écoles pour former les jeunes à la discipline, l'alignement, le fait de ne pas parler en cours, le fait de se tenir droit, le fait de ne pas se plaindre, fait que c'est un apprentissage de vie, c'est ce qu'on appelait dans le temps, nous, l'éducation physique, et qui a été dévoyée pour devenir le sport. Et le sport, c'est une autre notion. Dans le sport, on recherche une performance, on recherche la reconnaissance. Alors que, en fait, quand on fait de l'éducation physique, on cherche à se développer soi-même. Même dans le désert, tout seul, on peut développer son activité physique. Donc, c'est ce qui ferait la différence entre, je dirais, le sport et l'activité physique. Donc voilà, ça, c'est le Kung Fu tel qu'il est maintenant développé en Occident.
Ensuite, on va parler du Tai Chi Chuan. Donc là, quelle est la différence par rapport au Kung Fu ?
Alors, on va prendre une image qui est toujours un petit peu allégorique. On va dire que le Kung Fu, c'est la première moitié de la vie et le Tai Chi Chuan, c'est la deuxième moitié. Voilà, et ne me demandez pas où se trouve la moitié. Chacun a sa moitié. quand on a acquis tout ce dont je viens de parler en termes de santé, en termes de rigueur au niveau de sa vie, les années passent et puis on devient plus sage et puis on a moins d'activités professionnelles et puis on commence à rentrer dans la deuxième moitié de sa vie et on n'a pas du tout l'intention de baisser les bras. On n'a pas l'intention d'arrêter de bouger, d'arrêter d'entretenir l'hygiène du corps. Et à ce moment-là, on va continuer le travail qu'on a acquis en fait au travers d'évolution plus lente. Donc le Tai Chi Chuan, c'est lent, c'est plus lent. On n'a plus envie de bouger très vite. Il y a un âge où c'est bon, on a passé le côté exploit et puis on a passé la jeunesse. La jeunesse, on est rapide, on est souple, on a du souffle. Et puis, arrivé dans la deuxième moitié, c'est la vie, c'est physiologique, c'est comme ça, faudra bien se rendre à l'évidence. On perd un petit peu sur tous ces aspects-là, mais on n'a pas envie, en revanche, de devancer l'appel.
Et alors, le Qigong, c'est un peu sur le même principe que le Tai Chi Chuan, le principe qu'un corps doit d'abord être sain avant de rendre harmonieuse la relation avec notre esprit.
Tout à fait. En fait, alors le Qigong recouvre toutes les notions, mais se développe un petit peu plus avec l'âge et avec la sagesse. On comprend avec l'âge et la sagesse qu'en fait, le souffle est plus important que tout. On oublie très souvent, je le vois en cours, les élèves oublient un détail, c'est respirer. On oublie juste de respirer. Je ne parle pas de la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, alors carrément, personne n'a pensé des fois, une seule fois dans la journée qu'on respire. C'est un acte qui pourtant est fondamental. Donc le Qi en Chine, c'est le souffle. Kong, c'est le même mot que tout à l'heure pour Kung Fu, Kong, le travail, travail sur le souffle. Alors ça, ce travail sur le souffle, il se fait quelle que soit l'activité. On travaille le Qigong en faisant du vélo, en faisant de la danse, en faisant du chant, en parlant dans un micro, dans une émission de radio. On fait du Qigong parce qu'en fait, il faut gérer son souffle, travailler un muscle qu'on ne connaît pas beaucoup qui s'appelle le diaphragme. Et ça, c'est pareil, les Chinois l'ont énormément développé parce qu'à partir de ce souffle, découlent les capacités physiques, bien évidemment, et puis bien évidemment découle aussi l'oxygénation du corps qui est un formidable moyen de prévention des maladies, de toutes les maladies qu'il peut y avoir. Donc le Qigong recouvre toutes les notions. On ne peut pas faire du Kung Fu sans Qigong, on ne peut pas faire du Tai Chi sans Qigong. Si on veut donner une image, le Kung Fu, le Tai Chi Chuan, c'est de la mécanique. On travaille la mécanique du corps. Le Qigong, c'est le carburant. Donc le carburant tout seul ne sert à rien. La mécanique toute seule ne sert à rien. Mais le tout réuni, ça vous fait le Tai Chi, le Kung Fu, le Qigong.
Et du coup, au sein de l'école du Dragon Bleu, les élèves du Tai Chi Chuan, ce sont aussi les élèves du Qigong et du Kung Fu.
Exactement, parce qu'on ne peut pas, retirer l'un à l'autre. Les deux sont complémentaires. Donc on peut travailler spécifiquement un exercice d'un type ou d'un autre, mais de toute façon, à un moment donné, il faudra que le souffle rejoigne le travail physique, comme faisaient tous nos anciens. On a tous entendu. Vous savez, quand vous écoutez un match de tennis à Roland-Garros, vous entendez le souffle, le chi, au moment de l'effort, la synchronisation parfaite entre le chi et l'impact de la balle sur la raquette. Et c'est ça le chi. Donc on ne peut pas le dissocier. Un tennisman ne va pas travailler d'un côté son chi et d'un autre côté son coup droit. Il va forcément travailler les deux en même temps. Et là, vous avez la symbolique un petit peu dans ce qu'on retrouve dans les arts martiaux. Quand on appuie les coups, quand on frappe, vous entendez ce souffle qui est consécutif à l'effort physique qu'on vient de mettre en œuvre.
Alors du coup, en tant que professeur d'arts martiaux, donc comment vous enseignez ces différentes disciplines à vos élèves? Voilà, quelle est votre méthode?
Oh, la méthode, elle est très, c'est très scolaire. C'est pour ça que je me plais toujours à dire que nous sommes dans une école, nous ne sommes pas un club. Le kung-fu s'apprend en école avec des bases scolaires. Donc, vous avez toujours pour le kung-fu et pour le tai-chi, et bien sûr pour le kung-fu davantage, un très gros échauffement. Le corps doit monter en température. Au sens propre et au sens figuré, on doit vraiment être à même de lui demander des efforts importants. On ne démarre pas le kung-fu à froid. Le tai-chi, il y a un petit échauffement qui est plus léger, plus tranquille, bien évidemment, mais d'abord un très très gros échauffement qui pourrait paraître rédhibitoire, mais que les élèves adorent, parce qu'en fait, l'échauffement à la chinoise, c'est une foule de techniques, de mouvements spécifiques qui amènent ensuite déjà à avoir compris les principes de base du kung-fu. Ensuite, un très gros travail technique. C'est très technique, le kung-fu, le tai-chi. Alors, le kung-fu en combat, c'est extrêmement technique. On ne peut pas avoir un bon combattant qui ne soit pas un bon technicien. Y a des gens qui vont en compétition de kung-fu. Il y a de magnifiques compétitions. Les Français excellent, et personne ne le sait. Les Français excellent en compétition de Kung Fu. Et on voit dans les compétitions de combat la différence qu'il peut y avoir entre un compétiteur technique et un compétiteur qui ne l'est pas. C'est flagrant. Et on se rend compte qu'en fait, un bon technicien sera toujours le meilleur combattant.
Vous avez commencé à évoquer la compétition. Avant d'en parler, juste un mot, donc vous dispensez les cours, il y a aussi des stages qui sont proposés.
Tout ce qui est possible de proposer, on le fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un déficit énorme d'activité physique dans nos civilisations, mais un déficit colossal. Alors ce déficit, il est un peu ennuyeux ou très ennuyeux quand on est face à une maladie. C'est un peu embêtant là, à ce moment-là, parce que la maladie se régale sur des gens dits fragiles, c'est ce qu'on répète du matin au soir sur les médias. La maladie touche les gens fragiles, c'est pas nouveau, même les courants d'air touchent les gens fragiles. Donc c'est sur le mot fragile qu'il faudrait travailler davantage. Et tout ce qu'il est possible de faire, et pas forcément que du kung-fu, du tai-chi, toute personne qui propose des stages, et on aurait éventuellement, je vais aller un peu plus loin, un gouvernement qui organise des stages en extérieur s'ils veulent, à l'intérieur, si les gens sont protégés, mais peu importe. Mais au lieu de les enfermer et de les empêcher de bouger, faites bouger la population. Vous allez voir, les résultats seront spectaculaires. Ça recouvre cette fameuse notion de prévention dont on parle tant, mais qu'on ne voit jamais.
On va parler tout à l'heure de la compétition, mais avant cela, on fait le point sur les dernières actualités sportives dans la région.
Le journal des sports, les résultats.
On commence par du handball. Le bureau directeur de la Fédération française annonce l'arrêt de tous les championnats et coupes de handball amateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain. Les montées et descentes pour tous les niveaux amateurs sont gelées, hormis pour l'accession des deux équipes en statut VAP de National 1 masculine et pour la Division 2 féminine. La Fédération propose un accompagnement de ces clubs. Les objectifs de ce plan sont multiples et permettront aux clubs de retrouver du lien avec leurs pratiquants et bénévoles pour finir la saison et entamer la prochaine dans les meilleures conditions. Et puis dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes lundi dernier, le Cross Île-de-France alerte sur la situation dans le sport. L'Institut régional de développement du sport révèle que sur les 2,4 millions de licences comptabilisées en Île-de-France, seulement 38% sont détenues par des femmes. Sur 36 disciplines recensées, seules 5 ont dans leur rang une majorité de femmes. Les sports de glace, la gymnastique, l'équitation, la natation et le roller. A l'inverse, les mauvais élèves affichent des taux inférieurs à 10% de femmes présentes, à l'image du football, du tir ou du cyclisme. Et puis surtout, le bas blesse cruellement au niveau des fonctions dirigeantes. Une petite page de pub et on se retrouve pour la seconde partie du Journal des Sports.
BPM, le Journal des Sports.
On entame la seconde partie de votre Journal des Sports, toujours avec Frédéric Pinlet, président et professeur d'arts martiaux au sein de l'école du Dragon Bleu. On parle maintenant de compétition. Quelles sont les épreuves auxquelles participent vos élèves ?
On a une section dans l'école qui est petite, hein, mais qui en qualitativement a fait parler de notre école, même dans le monde entier, puisqu'on est allé jusqu'à Las Vegas en 2015, où on a obtenu trois médailles d'or et une médaille d'argent sur 4 prestations. Donc on est revenu extrêmement fiers de ça. Les élèves brillent dans toutes les compétitions nationales françaises organisées par différentes fédérations. Et on est très heureux de ces résultats parce qu'en fait, on ne forme pas la compétition. C'est-à-dire que nos élèves vont en compétition juste avec leur bagage technique, basique, scolaire. Et on s'aperçoit encore une fois, donc la technique prend le dessus toujours sur des combats qui ne sont pas suffisamment techniques, donc qui ressemblent plus des fois à de la bagarre. Et on s'aperçoit que technique contre bagarre, la différence se fait instantanément. Et nos élèves, depuis 20 ans, ont ramené, on ne compte même plus les médailles. C'est assez valorisant pour l'école. Et toute l'école est derrière nos compétiteurs parce qu'en fait, on ne peut pas avoir une équipe de compétition si on n'a pas derrière toute une école qui les soutient, qui les supporte. Et puis des élèves qui prennent des coups, qui ne vont pas en compétition, mais qui prennent des coups toute l'année lorsqu'on s'entraîne au combat à l'école, bien sûr.
Et alors, concernant le format de ces compétitions, comment ça se passe un combat? Comment on gagne?
Alors, c'est dur. Un combat de kung-fu, c'est très dur parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, les coups sont portés. Ils sont portés même à l'entraînement. Ils sont portés en compétition. Quand on fait le trophée du dragon à Paris, c'est même les coups sont. On est même au chaos système, en fait. Hein, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'au chaos parce que les coups sont donnés. Et alors, bien évidemment, comme en kung-fu, vous avez tous les coups de pied, coups de pied directs, retournés, latéraux, etc. Tous ces coups de pied sont autorisés à la tête, bien sûr. Et puis, selon le type de compétition, vous avez les coups à la tête, portés à la tête, ou en sanshu, au corps. On peut pas travailler à la tête puisqu'en fait, les gants sont trop petits. Hein, c'est ce qu'on appelle les gants doigts coupés. Donc, il y a quasiment rien pour protéger. Donc, on peut pas frapper au visage parce que c'est pas le but. Le but n'est pas de blesser. Le but, c'est d'arriver à un très haut niveau de compétition. Le fait que les coups soient portés considérablement en compétition ou à l'entraînement, ça en fait un art martial redoutable. Parce qu'en fait, vous travaillez toute l'année, vous prenez des coups toute l'année, vous donnez des coups toute l'année, des vrais. Et forcément, si vous aviez par malheur une mauvaise rencontre, vous êtes quand même déjà très très formé à vous défendre. Et on a beaucoup de femmes et de jeunes filles dans l'école qui sont formées au combat. Et je peux vous dire qu'il y a des scénarios qu'on entend parfois à la télé, à la radio, qui ne se passeraient pas de la même façon si certains croisaient l'une de mes élèves, ouais, c'est sûr.
Est-ce qu'il y a des protections
Alors très peu, on a des protections pour les jambes parce qu'en fait, les protections c'est pas pour soi. Hein. Les protections c'est pour l'autre, hein, toujours. Hein,
ah
on
oui. pense
toujours, on met des protections pour se protéger. Pas du tout, c'est juste parce qu'on veut pas blesser le camarade qui est en face. Et la protection permet d'appuyer les coups un peu plus. Le but c'est pas de se blesser, le but c'est de travailler au maximum de la puissance sans se blesser. Donc on met des protections, bien sûr on met des gants, on met un protège-dents parce qu'un coup peut arriver, on sait jamais, hein, ça peut glisser, ça peut passer. Donc il y a toutes les protections, je croise toujours les doigts, ça fait quand même plusieurs décennies, on n'a jamais eu d'accident grave dans l'école alors qu'on est à coups portés. Et parfois dans des écoles où il n'y a pas les coups portés ou d'autres arts martiaux, on arrive à avoir des accidents parce qu'en fait on fait forcément un petit peu moins attention quand on ne s'attend pas à voir un coup arriver. Par contre quand on sait que ça va nous tomber dessus, forcément le niveau de protection il est maximum.
Et alors pour gagner un combat donc il y a le chaos qui est possible.
Oui, c'est pas une finalité.
C'est pas une finalité.
Et donc non, vous avez en général 3 ou 4 arbitres plus une table qui juge et qui marque à chaque fois que vous marquez un point au corps, ça compte tant. Coup de pied au corps, ça compte tant, coup de pied retourné, vous avez des valorisations, crochetage, balayage, projection, tout ça c'est des techniques et à chaque fois les arbitres calculent incrémentent leur petit compteur et puis à la fin des fois la surprise générale parce qu'on sait jamais, chacun a sa vision d'un combat, vous avez un vainqueur déclaré, c'est très généralement en 2 rounds ou en 3 rounds s'il y a eu égalité. Voilà, c'est tout à fait classique, tout à fait facile à comprendre et très spectaculaire, toujours très spectaculaire. On regrette vraiment que la télévision se soit jamais penchée sur les combats de kung-fu parce que c'est extrêmement spectaculaire, c'est quand vous avez des coups de pied sautés, retournés, c'est vraiment très très beau à voir.
Juste un mot sur l'impact de la crise sanitaire sur vos activités au Dragon Bleu. Qu'est-ce que ça a changé?
Alors, impact, bien sûr, bien évidemment, c'est un énorme bouleversement. C'est comme si une tempête avait traversé la France. Hein. Donc, bien sûr, on est impacté. On l'est un tout petit peu moins que d'autres parce qu'on a la chance, comme je vous ai dit, d'avoir un mode d'éducation dans le kung-fu qui peut passer aux techniques, aux tout-techniques. Donc, quand on passe aux tout-techniques, on ne se touche pas, on est à distance. Donc, on peut continuer de travailler. Cette année, on a fait d'énormes progrès en technique. On a perdu un petit peu en combat, c'est clair, on n'a pas l'entraînement de combat, même si on a nos jeunes qui vont en forêt pour travailler entre eux, voilà. Mais on a un peu perdu au niveau combat, mais par contre, en revanche, au niveau technique, là, effectivement, on a une très très grosse avance, parce qu'on travaille en extérieur, on se retrouve par groupe de 6, et puis on arrive à travailler. Le tai chi, c'est pareil, on travaille par groupe de 6, et en extérieur, et avec les distances, et puis on met le masque entre deux entraînements, mais on a pu effectivement maintenir un très bon niveau. Puis quand il y avait le confinement total, on est passé par un procédé que je n'aime pas beaucoup, mais qui est nécessaire, c'est la vidéo. Donc on s'est équipé considérablement, on a créé un petit studio de télévision, et puis on a retransmis nos cours en direct. Mais là, on voit bien les limites du système. On ne va pas transformer la société en société virtuelle. À un moment donné, il faut aussi revenir sur Terre.
Alors justement, dans ce contexte avec les multiples confinements, vous, en tant que professeur dans le domaine du sport, vous voulez alerter la population sur l'importance de pratiquer une activité sportive et physique régulière.
Oui, je peux vous dire que je suis pas tout seul, on est beaucoup. D'ailleurs, on vient de se regrouper avec une nouvelle union, l'union des acteurs de la santé, hein, où on regroupe énormément de professionnels et de fédérations qui œuvrent pour, pas que le sport, qui œuvrent pour l'activité physique, qui œuvrent pour toute activité physique, même la marche à pied. Parce qu'on boue littéralement sur nos chaises en regardant les journaux télévisés se succéder depuis un an et où on ne voit jamais de représentants des arts de santé, comme si c'était désuet, comme si on était sur des concepts dépassés. Alors que l'activité physique, si on parle en termes de santé, et si on le comparait au système solaire, l'activité physique, ça serait le soleil. Rien moins que ça. C'est juste le centre de tout. Si vous avez de l'activité physique, déjà 90% de nos problèmes sont éliminés. Dans les 10% qui restent, vous prenez 90% pour le mode d'alimentation, comment s'alimenter. Et puis dans les 1% qui restent, effectivement, tout ce qu'il peut y avoir qui permet de maintenir la santé. Et depuis un an, on ne parle pas des 90%. On ne dit pas suffisamment que la santé, c'est pas drôle, mais il faut bouger. On ne fait pas... Si on veut la santé, moi je respecte les gens qui me disent « Moi, ça me dérange pas, je fume, je grossis, c'est ma vie. » D'autres me disent « Moi, je fais du sol élastique ou du ski hors piste. » C'est sa vie, on a le droit de prendre des risques, c'est notre propre vie. En revanche, si on veut vivre longtemps, et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent vivre longtemps et en bonne santé, il n'y a pas 36 solutions. Il faut au moins marcher à pied, au moins bouger, tous les jours, tout le temps, et ça on ne l'entend pas. Il n'y a même pas un message. Pourtant, on en a des publicités contre le Covid. Il n'y a pas un message pour dire marchez à pied, sortez, aérez-vous, vous êtes seul en forêt, enlevez le masque, respirez à plein poumon. On n'entend pas ça. On n'entend que restriction, enfermez-vous, ne bougez plus. Alors, c'est très grave, bien évidemment, pour nos seniors, bien sûr, puisqu'on ne les amène pas à avoir de l'activité. On ne favorise pas ça. On ne favorise aucun professeur de gymnastique. On ne favorise aucune activité associative qui viserait à faire bouger toutes ces personnes-là. Par contre, je tire la sonnette d'alarme, c'est pour les enfants. Là, on va vivre un véritable drame. On parle d'un drame économique, mais on va vivre un drame physiologique dans très peu de temps. Nous avons des enfants qui ne bougent plus, qui sont en surcharge pondérale à 15 ans, à 10 ans, ils sont déjà en surcharge pondérale. Ils vont même avoir des problèmes ophtalmiques. À force de regarder les écrans, ils n'arrivent même plus, l'œil n'arrive même plus à accoutumer et à regarder de loin. Ils n'ont plus de souffle, ils n'ont plus d'habileté. Ils n'ont même plus la notion, alors là c'est encore plus grave, des trois dimensions. Ils vivent dans un monde en deux dimensions. Il n'y a que l'ordinateur qui fait la troisième dimension. Mais eux-mêmes, quand on les voit en cours, ces pauvres enfants qui arrivent dans notre cours, parfois n'arrivent même plus à travailler vers l'autre, parce qu'en fait l'autre n'existe pas, il est sur un plan vertical, il n'y a même plus le plan en profondeur, quand on donne un coup de pied, un coup de poing, il n'y a même plus ce plan en profondeur, c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à leur faire donner un coup de poing maintenant. Donc on est sur une alerte rouge, rouge vif, et ça serait vraiment formidable qu'on ait effectivement un jour... un ministre ou une ministre des sports ou de l'activité physique, pourquoi pas rattaché à la culture physique, qui prennent les choses en main, vraiment, pour amener à un niveau de santé considérable. Pour ça, il faut effectivement vouloir que les gens aient la santé. Mmh. Est-ce qu'on le veut vraiment ?
Et alors, pour atteindre un niveau de santé normal, qu'est-ce que vous préconisez pour les auditeurs qui nous écoutent, surtout en cette période ? Qu'est-ce qu'il faut ? Combien en fréquence, en intensité ?
Il n'y a pas besoin de beaucoup si on fait tous les jours. Vous savez, les Chinois, on les regarde toujours avec beaucoup de condescendance. On est toujours très condescendant à leur endroit. On les regarde travailler. On dit toujours les petits Chinois qui font leur petite gymnastique. On se moque presque d'eux, on les prend en photo. Et en fait, eux, tranquillement, ils font aller un quart d'heure, une demi-heure par jour. Des étirements, là, ça s'apprend une fois en école. Une fois qu'on connaît les étirements, c'est bon. Enfin, on connaît deux ou trois petites routines, c'est bon, mais pour tous ceux qui n'ont pas la chance ou la possibilité ou le temps d'aller dans une école, marchez à pied déjà, surtout. Tout le monde, marchez, faites 10 minutes par jour, un quart d'heure par jour. Vous avez le temps, faites une heure. Obligez-vous à aller chercher le pain à pied, à aller quelque part à pied. Voilà, déjà c'est une base, mais après il faut aller beaucoup plus loin que ça, bien sûr. Alors je parle là des gens qui sont un peu âgés, quand je dis marcher à pied. Pour les jeunes, il faut aller bien au-delà. Quand je dis les jeunes, on est 30 ans, 40 ans, c'est jeune, hein. C'est très très jeune, donc là il faut effectivement trouver un lieu où on travaille pas pour l'exploit technique, pour se blesser, mais travailler un lieu où on travaille vraiment en profondeur. Moi dans ma vision j'irai encore beaucoup plus loin, j'aimerais vraiment qu'un jour on ait, qu'un gouvernement nous écoute et on pourrait mettre en place, qu'il y a une expérience qui est menée à Verneuil en ce moment, qui est une très belle expérience qui est menée dans une école où les enfants font du kung-fu. Déjà les amener à comprendre comment fonctionne le corps, ils comprennent toutes les bases, de le mode d'emploi qu'on n'a jamais eu, le mode d'emploi de notre corps. Et on s'aperçoit qu'en fait, on ne sait pas tenir sur un pied, on ne sait pas pousser sur un pied, on ne sait pas... le pied repose mal sur le sol, la colonne vertébrale n'est pas bien placé, le cou n'est pas bien placé. On ne sait pas du tout se servir. On a un corps qui est plutôt une gêne, qui nous ennuie, qui nous fait mal quand on se cogne, qui s'enrhume l'hiver. Notre corps, c'est plutôt une gêne, alors qu'en fait, c'est une bénédiction et il faut l'entretenir. Et très souvent, je vois des gens qui entretiennent beaucoup mieux leur voiture que leur corps. Et nous, on se regarde dans la glace, puis on dit « ouais, ça va, voilà, si les cheveux sont propres, si les dents sont propres, ouais, ça va ». Et puis, c'est un petit peu comme si on n'allait jamais chez le mécanicien avec sa voiture, puis qu'on regarde juste qu'elle soit propre. On dirait, oh non, ça va, elle est propre. Elle est en bon état, oui. Et on ne voit pas que la mécanique en dessous, il est temps de se pencher dessus. Donc oui, éducation physique, mais apprendre aussi, enseigner à des éducateurs pour reprendre le relais, hein, pour faire un système un peu pyramidal, pour dire, voilà, on va former des profs dans les écoles, pourquoi pas, pour faire des petits mouvements de base, des petites routines. De kung-fu. Et les enfants adorent. Si un jour vous avez envie de faire un reportage là-bas, vous allez vous régaler. Vous allez voir les enfants, sous la férule d'une professeure des écoles. C'est une expérience qui devrait être développée à l'échelle nationale. Là, on va y travailler aussi avec cette union des acteurs de la santé qui vient juste de naître là et qui regroupe beaucoup de monde. On va essayer de développer justement cet aspect ministériel, ministère de l'éducation, qui puisse faire redescendre, faire des stages, former des formateurs, et puis plus ça ira, plus il sera possible dans son école d'avoir ce genre d'exercice qui ne peut faire que du bien.
On a parlé de la Chine, hein, vous le disiez en off, en Chine, il y a cette sorte de discipline concernant l'activité physique dès le plus jeune âge.
Alors, c'est très impressionnant. Ce serait bien aussi qu'on voit plus de reportages. Alors, on les voit des fois, mais c'est sur Arte à 1h du matin, c'est dommage. Ça serait bien qu'on voit à des heures de grande écoute ce qui se passe vraiment dans les écoles, mais pas avec le regard condescendant de l'occidental. Regardez ce qui est bien dans ce modèle, sans se dire qu'on va l'importer. On ne peut pas importer directement une culture. Ce n'est pas possible. C'est la culture chinoise, c'est la culture chinoise. C'est trop dur pour nous. Mais sans aller entre trop et pas assez, il y a toujours des justes milieux. Et s'inspirer de leur manière à eux de canaliser, et on a besoin de canaliser les jeunes en ce moment, de les canaliser sur quelque chose de beau. Les Taolu, ces enchaînements que vous voyez en Chine, où tout le monde travaille en même temps, mais vous créez un esprit de groupe. Tout le monde veut réussir cet enchaînement ensemble. Il n'y en a pas un qui dit « moi je veux sortir du lot, je veux être dans mon petit monde à moi, sortir un petit peu de la société ». Donc faire des choses ensemble, c'est peut-être même ce qui, dans notre école en tout cas, est le plus valorisant pour les élèves. Et souvent ils me l'ont dit, c'est quand on travaille ensemble, enfin on fait quelque chose de beau ensemble. Et faire quelque chose de beau ensemble, il y a longtemps qu'on ne le fait plus dans nos civilisations, on est dans une société qui se morcelle, on ne fait plus les choses ensemble. Et quand on fait des choses ensemble, on voit que les gens sont heureux, quel que soit le projet. Quel que soit le projet, les gens sont heureux de travailler ensemble, ils aiment être ensemble, ils aiment travailler ensemble en harmonie. Les Chinois ont vraiment bien compris ça.
Merci à vous, Frédéric Pinlet, d'être venu dans nos studios.
Je vous en prie. Merci, à bientôt.
C'est la fin de ce Journal des Sports. Vous pourrez le réécouter demain mardi à 12h10. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.
Le Journal des Sports de BPM.